Je voudrais lire plusieurs textes avec vous et je vous encourage vraiment à prendre votre Bible et à noter les textes. Je suis surpris de voir que de plus en plus les chrétiens ne prennent pas leur Bible. Vous savez, cette semaine, j'ai fait un séminaire dans une église, il y avait plein de pasteurs et j'ai été étonné de voir que presque tous ces pasteurs n'avaient même pas leur Bible. Ça m'a choqué. Vous comprendrez peut-être un petit peu mieux pourquoi à la fin de la prédication. Mes frères et sœurs, le Seigneur va revenir et je peux vous dire, il vaudrait mieux que les chrétiens aient la foi. Cette foi vivante. Chrétiens, ils viennent presque les mains dans les poches, ils écoutent. Un pasteur peut raconter n'importe quoi maintenant. Ils vont le croire. Si vous saviez tous les textes qui parlent des faux docteurs, des séductions, des doctrines de démons, vous savez, quand on en arrive à accepter des doctrines de démons, croyez-moi, il faut qu'on soit loin de Dieu. Et pourtant, c'est bien le cas, croyez-moi. Alors, il y a des textes, je voudrais j'en prendre plusieurs pour introduire ce sujet. Par exemple, voyez dans le psaume 86. Voyez, c'est un psaume de David, le verset 11. Et vous savez, ce n'est pas pour vous ennuyer, ce n'est pas du légalisme, ce n'est pas pour vous ennuyer. Si je vous demande de prendre des notes, ce n'est pas parce que c'est moi qui prêche. Ça serait inquiétant, ça serait grave, ça serait de l'orgueil. C'est pour que vous ne viviez pas dans l'ignorance. Croyez-moi, l'ignorance a fait beaucoup de tort au royaume de Dieu. Vous allez me dire, mais on lit la Bible. Croyez-moi, c'est une chose de lire la Bible, c'est une chose de méditer. Dans le psaume 86, voyez, regardez cette prière. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Je ne sais pas si c'est une prière que vous faites. Vous la faites de temps en temps, cette prière? Eh oui. Il y a déjà, ils n'ont pas du tout la crainte de Dieu. Je peux vous dire que s'ils vivaient cette prière, pas s'ils la faisaient. Mais s'ils la vivaient, Dieu disposerait leur cœur. Un autre texte dans l'évangile de Matthieu, où Jésus donne une parabole qui indique bien le sujet que nous allons développer ce matin, et certainement dimanche prochain, car nous n'aurons pas le temps de finir, compte tenu de l'importance du sujet. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 33, Matthieu 13, 33, c'est la fameuse parabole du levain. C'est une parole, n'oubliez pas, c'est Jésus qui l'enseigne. Vous comprendrez bien tout à l'heure pourquoi Jésus a donné cette parabole. Matthieu 13, verset 33. Jésus leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole. Et vous remarquerez qu'à plusieurs reprises, les chrétiens allaient vers Jésus, explique-nous la parabole. Vous voyez, c'est ça le besoin de noter et de comprendre les choses. On va lire un autre texte dans Timothée. Dans Timothée, un texte qu'on connaît bien, parce qu'il nous parle des temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles, je ne vous l'apprends pas, je pense. Nous sommes dans des temps difficiles, ça ne veut pas dire impossible. Vous le comprenez bien, surtout si la grâce et la paix de Dieu dans votre cœur. De Timothée chapitre 3, verset 1er. Nous sommes vraiment dans des temps difficiles. Et ils se caractérisent par des comportements qui sont contraires à la piété, bien entendu. De Timothée chapitre 3, verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Alors ces hommes-là, c'est des chrétiens, hein, croyez-moi, puisqu'ils parlent de gens qui ont l'apparence de la piété. Donc c'est bien des chrétiens. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il ne faut pas s'éloigner des pécheurs. Si vous travaillez avec des pécheurs, c'est normal que vous soyez à côté d'eux, que vous les aimiez, etc. Mais il y a des chrétiens qu'il vaut mieux éviter. Enfin, des chrétiens, des pseudo-chrétiens. Croyez-moi. Un autre texte dans Thessaloniciens, au chapitre 2, une épître qui a été écrite parce que déjà des choses fausses étaient enseignées. Vous vous rendez compte, déjà des choses fausses étaient enseignées, à savoir que le Seigneur était déjà revenu. C'est ce que Paul écrit. Lisons le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. Je vous encourage à lire ces textes. Vous savez, moi, j'ai vu des chrétiens cette semaine qui ont 20 ans de conversion, qui m'ont posé des questions qu'ils n'auraient pas dû poser. Ils auraient dû avoir la réponse depuis au bout d'un an de conversion, 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ça, c'est sûr. Écoutez, ce n'est pas un jugement, c'est facile à comprendre. Si vous allez chez un mécanicien, ça fait 10 ans qu'il est mécanicien, il ne sait pas vous changer une roue, vous allez dire, il y a un problème. Oui ou non ? Oui ou non ? C'est qu'il me semble qu'un mécanicien, au bout de 10 ans, il doit savoir changer une roue. Mais je peux vous dire qu'il y a des chrétiens, au bout de 10 ans de conversion, ils ne savent pas certaines choses qu'ils devraient savoir. Alors je ne veux pas accabler. Mais il y a quand même des propos bibliques qu'il est nécessaire de méditer. C'est pour ça que je vous demande de prendre des notes. Parce qu'il y a ce que moi je dois vous dire, je peux vous dire, mais il y a ce que vous devez découvrir. C'est écrit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Est-ce que c'est écrit ? Et si vous attendez tout d'un pasteur, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que premièrement, le pasteur, il ne sait pas tout, et il y a des choses que vous devez vous découvrir. Comme Pierre, qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui a dit « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux ». Ce sont des choses sérieuses. Lisons ce chapitre que je vous encourage à méditer, car c'est un chapitre qui termine par une condamnation par rapport à certains hommes chrétiens, dont on doit savoir ce qui fait la différence entre les épreuves qu'on traverse et la condamnation. Vous voyez ? Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. » Vous avez vu comment l'ennemi est insidieux ? Les Thessaloniciens avaient reçu des courriers qui seraient soi-disant parvenus de l'apôtre Paul, qui indiquait des choses tout à fait fausses, soit par une parole, soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si le jour du Seigneur était déjà là, si Jésus était déjà revenu, ça voulait dire que les Thessaloniciens devraient traverser la grande tribulation. Vous comprenez ? Ce qui est grave, ce qui est terrible, parce que je peux vous dire que ceux qui vont traverser la colère, ils ne vont pas rire du tout. Les chrétiens, les véritables chrétiens, ne traverseront pas la colère de Dieu. Alors, verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Vous vous rappelez ce qui est écrit dans Ésaïe, que le diable, Lucifer, il voulait monter jusqu'au trône de Dieu et s'asseoir. Vous avez vu comment il persévère, hein ? Lui persévère. Verset 5. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Quand même, ça vaut la peine de s'arrêter. Vous voyez comme il est puissant, le Seigneur ? Un souffle. Vous voyez, quand Dieu voudra arrêter les choses. Et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'ennemi pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous avez lu avec moi ? Vous avez vu ? Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc là, on n'est plus dans les épreuves. On le verra certainement la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps de le voir. Mais là, on est dans le fait que des chrétiens pourront subir la condamnation, donc le jugement, parce qu'ils n'auront pas pris plaisir à la vérité. Ils ne se seront pas souciés de la vérité. L'apostasie, c'est le signe du retour du Seigneur. Il y a tous les signes, on parle souvent des tremblements de terre, mais vous avez des gens, oui, mais des tremblements de terre, il y en a toujours eu, et c'est vrai. Mais même s'ils font en s'accentuant, il n'empêche que quand même ce sont des signes. Il y a eu des famines, il y en a tout le temps eu des famines. Même, est-ce qu'il y en a eu en Europe des famines? En France, il y en a eu des famines. Il y en a eu des famines, mais enfin, ça s'accentue. Il est incroyable le nombre de gens aujourd'hui qui meurent de faim, alors que dans le même temps en Occident, les gens y meurent parce qu'ils mangent trop. Mais c'est écrit, il y aura des famines, et de notre côté, il est dit aussi que nous devons veiller, dans certains endroits, que nos cœurs ne se laissent pas appesantir par les excès du manger ou du boire. Ce qui prouve bien que d'un côté, il y a des famines, et de l'autre, il peut y avoir une trop grande abondance. Mais le signe qui montre que Jésus va revenir chercher l'Église, c'est l'apostasie. Je ne sais pas si les chrétiens, tous les chrétiens, en tous les cas c'est sûr, quand je dis je ne sais pas, ce n'est pas que j'ignore, c'est que je veux vous exprimer certaines choses. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, les quatre premiers chapitres concernent l'Église. Après, l'Église est enlevée et la colère de Dieu vient sur la terre. Mais les quatre premiers chapitres dans l'Apocalypse parlent de cette Église qui vivait en même temps en Asie mineure et aujourd'hui la Turquie. C'est cette Église représente un petit peu ce qui se passe sur la terre. Aujourd'hui, il y a des églises fidèles et il peut y avoir, 300 mètres après, une église qui soit infidèle. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne vous apprends rien. On aimerait, nous, que toutes les églises soient fidèles. Alors, au chapitre 2, vous avez une église où le Seigneur marche. Pourquoi? Parce qu'il y a les chandeliers d'or. Les chandeliers d'or, c'est l'image, ça représente d'abord le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il y avait dans le lieu saint? Il y avait le chandelier tout en or. Ce chandelier était l'image de Jésus, la lumière. Vous me suivez? C'est pour vous indiquer, c'est une introduction, c'est pour vous indiquer comment Dieu voit l'Église. L'Église, elle doit être une lumière, Jésus est la lumière, mais il va redire juste après, vous êtes la lumière du monde. Donc, il met la responsabilité sur les chrétiens de devenir un témoignage au travers de ce qu'ils vivent. Nous sommes chargés par notre témoignage, pas forcément par nos paroles. Comme le disait le pasteur qui m'a formé, c'est une des premières choses qu'il m'a dites. Il m'a dit, Gérard, la vérité, ça ne se dit pas. La vérité, ça se vit. Et ça m'a aidé. Jésus est la lumière, il est dans cette église. Regardez, Apocalypse chapitre 2. Verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Dans une église, il doit y avoir la lumière par la présence du Saint-Esprit. Et les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient chargés de nettoyer les lampes, d'alimenter le chandelier, etc. Il fallait que tout soit propre, que continuellement les lampes brûlent. C'est ce qu'il faut dans une église, que continuellement la parole illumine les cœurs. Dans cette église, il y a la présence du Seigneur, c'est la première église, mais on voit au verset 5 qu'il faut faire très attention et vivre vraiment dans l'obéissance, car quel est le verdict? Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc si on veut qu'il y ait la lumière dans l'Église, que le chandelier soit dans l'Église, il faut absolument que les chrétiens vivent dans la repentance. Ce qui fait la force de la piété, c'est quoi qui fait la force de la piété? Le costume cravate, se promener avec la Bible sous le bras, connaître des textes par cœur, aller à l'église tous les dimanches, est-ce que c'est ça la force de la piété? Non, la force de la piété, c'est vivre dans l'obéissance, dans la sainteté et dans la repentance. Ne vous imaginez pas que la piété soit autre chose. Et vous allez voir au travers de cette étude. Vous savez, moi, ça fait toute la semaine que j'ai été travaillé par ce sujet. Je pensais que c'était pour moi, pour mon édification personnelle, parce que moi je veux, en tant que chrétien, je veux m'édifier moi-même, moi aussi. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais cette étude pour moi, qu'elle était véritablement aussi pour l'Église. Donc, dans une Église, il doit y avoir la présence, la lumière de Dieu, le chandelier. Il est la lumière, nous sommes la lumière du monde. Dans une église où il n'y a pas de piété, où il n'y a pas de repentance, il court le risque que le chandelier soit ôté. C'est ce qui se passe dans la dernière église. Vous connaissez l'église de Laodicée. Qu'est-ce qui se passe dans la dernière église? Il est où le chandelier? Il est où le Seigneur dans la dernière église de Laodicée? Et vous ne me répondez pas? On ne vous l'a pas enseigné? Dans quelle église vous êtes? On ne vous l'a pas enseigné? Il est où le Seigneur dans cette église? Mais ça fait pitié vraiment. Apocalypse chapitre 3, vous le savez, une église qui vit dans l'illusion. Le Seigneur dit, mais le verset 20 du chapitre 3, ça fait peur ce verset. Il n'y a pas eu de repentance, il n'y a eu que de l'illusion et des œuvres. C'est bien les œuvres, parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais s'il n'y a que les œuvres, laissez-moi vous dire que ça ne va pas du tout. Apocalypse chapitre 3 verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est bien ce qui s'est passé. Le chandelier, il a été ôté. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Et le problème, il est là. C'est lorsque les hommes choisissent pour convenance des gens d'enlever la parole, d'enlever la vérité, d'enlever tout ce qui est écrit dans la Bible et le remplacer par des idées libérales, on aura le temps d'en parler, peut-être pas aujourd'hui, mais dimanche prochain, de remplacer par l'organisation des hommes, les hommes qui, eux, se croient intelligents. C'est pas de l'humour noir. Qui croient qu'ils sont capables de plaire aux gens, d'attirer les gens en faisant une espèce de compromis. Si on veut gagner les gens, il faut leur plaire, il faut leur donner des trucs qu'ils vont apprécier, il faut des choses intéressantes. Vous savez, quand les protestants et les presbytériens se sont réunis l'an dernier à Sète pour favoriser le mariage homosexuel, etc., dans les églises, personne ne leur a demandé. Pourquoi ils ont fait ça? Mais c'est pour plaire aux gens. Ça s'appelle la démagogie. Les politiciens sont forts pour ça. Ils sont démagogues. Mais dans l'église du Seigneur, lorsque les pasteurs commencent à chercher la démagogie, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon du tout. On n'est pas démagogue, on ne cherche pas à plaire au peuple, on cherche à plaire au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut? Et quand la fidélité est remplacée par l'organisation humaine, c'est pour ça, souvent on m'a reproché, même ici, je l'ai bien pris parce que c'était dit de manière intelligente, on m'a reproché en tant que pasteur de ne pas assez organiser l'église. J'ai dit, mais moi j'en veux pas. Il y a un minimum d'organisation que vous m'aidez à mettre en place, mais mes frères et sœurs, veillons à ne pas remplacer l'obéissance, la fidélité, la piété par des espèces d'œuvres qui font que beaucoup de chrétiens vont se retrouver dans la dernière église, c'est-à-dire l'église de la Laodicée, où on est là dans plein d'interprétations bibliques et on explique une chose d'une façon. Et il faut aujourd'hui, vous savez, il y a des séminaires aujourd'hui, il va y en avoir un, je crois, en juillet en Toulouse, c'est le mouvement du royaume maintenant. C'est des mouvements qui indiquent que le royaume maintenant, si je ne me trompe pas, je ne vais pas me tromper, mais je veux dire, je vais synthétiser. C'est un mouvement qui indique que tout le monde doit être sauvé avant le retour du Seigneur. C'est le royaume maintenant. Tout le monde va se convertir avant que Jésus ne revienne. Que tout le monde doit avoir une santé parfaite. Que tout le monde doit être prospère. Mais pour ça, bien sûr, il faut donner de l'argent. Alors, qui c'est qui va donner ce matin 50 euros? Montrez le billet, s'il vous plaît. Et vous riez, mais c'est comme ça que ça se passe. Moi, je l'ai vu. Ah, le monsieur au fond, là-bas, c'est quoi que vous montrez 100 euros? Venez ici, qu'on les donne. Et tout le monde applaudit. Ah, qui veut donner plus? C'est mes frères et sœurs, c'est ça. Et les chrétiens se font piéger par des choses pareilles. Alors que la Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Tout à l'heure, on va donner notre enveloppe. C'est bien les enveloppes. Personne ne voit ce qu'on a mis dedans. Mais, Mais quand même qu'un chrétien qui ait 3 ans de conversion n'ait pas pigé que l'offrande, c'est quelque chose de réservé, que c'est discret, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Ça veut dire qu'il faut être le plus discret possible. Alors, je viendrai la semaine prochaine sur les dangers des sectes. Il faut qu'il y ait des sectes. Mais le plus grand danger, ce n'est pas les sectes. Un chrétien qui connaît la parole de Dieu, il ne se fera pas piéger. Il y a des gens, les chrétiens aujourd'hui, qui sont affolés, par exemple, par les lois des hommes. Vous savez que les gouvernements, de plus en plus, changent les lois. Et pondent des lois, excusez-moi le terme, et pour opprimer l'Église, indirectement. Mais ce n'est pas le plus grand danger, les lois des hommes ou les sectes. Le plus grand danger, c'est l'apostasie. L'Église de la Odyssée était tombée dans l'apostasie. Ils ont réussi, alors qu'ils se croyaient riches, à mettre le Seigneur dehors, à cause de l'organisation. Les œuvres, il faut en faire des œuvres, et on ne peut pas ne pas en faire. Et si vous ne faites pas d'œuvres, vous êtes mal, je vous le dis. Mais les œuvres ne vous sauveront pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Les œuvres, elles vous suivront. Tout ce que vous faites, que ce soit des choses minimes, comme téléphoner à quelqu'un qui est malade parce que vous ne l'avez pas vu à l'église, ce sont des choses qui sont enregistrées. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Jésus dit que celui qui donne un verre d'eau à un de ses serviteurs, il ne perdra pas la récompense. Il faut faire des œuvres. Si vous ne faites rien pour Dieu, moi je vous plains vraiment. Mais les œuvres ne vous sauveront pas. Et l'église de Laodicée a réussi à se faire piéger. Elle a réussi à se faire piéger et pourtant elle se croyait riche. Donc la première question par rapport à l'apostasie, pour toi et pour moi, est-ce que tu sais où tu en es avec Dieu? C'est ça le travail d'un pasteur. Il veille sur votre âme, sachant qu'ils devront rendre compte. Moi, ma question, elle doit commencer par là. C'est pour ça que je vous dis, mais prenez votre Bible quand même. Si vous considérez ça comme de l'ingérence ou de la manipulation ou du légalisme, ben écoutez, alors là, vous avez un problème. Vous devez prendre votre Bible et vous devez vérifier si ce qui est enseigné est biblique. Oui ou non? C'est ça, cette légèreté. Lisez avec moi ce texte dans les Actes. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions qu'il y a des comportements à voir. Ces comportements nous éloignent de l'apostasie. Ces comportements nous éloignent de la légèreté et nous font découvrir une véritable piété. Acte 17, il nous est parlé de certains chrétiens qui habitaient à Bérée. Regardez bien, acte 17, verset 11. Ce sont des choses sérieuses, mes frères et sœurs. Si vous venez sans votre Bible, comme ça, en disant, monsieur, non, vous devez prendre la Bible et vous devez noter, sinon vous deviendrez léger. C'est du légalisme, ça? Mes frères et sœurs, vous voulez aller au ciel? Vous voulez faire partie de l'église apostate? Non. Alors nous devons être sérieux. Et moi, je m'adresse aux jeunes, peut-être même à des jeunes filles. Quand je vois certains couples pastoraux, dans quel état ils sont, et je me dis, toutes ces jeunes filles dans l'église, peut-être que certaines, vous serez épouses de pasteurs, ça vaut la peine que vous notiez ces textes et que vous disiez, mais c'est vrai, qui sait si vous n'allez pas vous marier avec un pasteur? Vous le savez? Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux. Regardez ce que faisaient les chrétiens de Thessalonique. Acte 17, verset 11. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourtant, Thessalonique, c'est une bonne église. Lisez les deux épîtres, vous allez voir, c'est une bonne église. Mais voyez encore mieux. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient, tous les 6 mois, les Écritures. Ah, pardon. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient. Papa, ils regardaient. Tiens, ouais, c'était... Ils examinaient. Vous savez ce que c'est un examen médical? Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et pourtant, ce n'était pas n'importe qui prêchait. C'était l'apôtre Paul. Voyez, l'apostasie, ça commence avec la légèreté. Le résultat, mes frères et sœurs, soyons sérieux. Je vous pose une autre question. Qu'est-ce que pense le monde quand il voit l'Église? Tout confondu. Qu'est-ce qu'il pense le monde, d'après vous? Vous avez vu, moi, les chrétiens, ils sont sympas. Ils m'envoient souvent des mails pour me dire, regardez, monsieur Gauss, ce qui a été dit aux informations. Un homme religieux qui a dit cette semaine, je l'ai lu, parce qu'il m'a envoyé l'article, que la pédophilie n'était pas un péché. Qu'est-ce que le monde... Oui, je lis l'article. C'est pas un païen qui a dit ça. C'est un religieux. C'est un responsable religieux, un haut responsable religieux. Qu'est-ce que le monde pense ? Le monde rigole, tombe dans un jugement normal, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous savez, quand vous lisez, on est dans les actes là, oui. Dans les Thessaloniciens, il est dit que c'est à cause de ces choses que je viens de faire allusion que la colère de Dieu, elle vient. Et la Bible dit qu'ils sont mûrs pour la colère. Et je peux vous dire que le monde se prépare à la colère de Dieu. Peut-être que vous ne le croyez pas. Peut-être que vous dites, mais avec ce qu'on voit aujourd'hui, M. Gault, c'est suffisant. Croyez-moi, ce que vous voyez aujourd'hui, et sans mépris, sans rien, avec beaucoup de tristesse, ce ne sont que des prémices et que des broutilles. Quand la colère va venir sur la terre, laissez-moi vous dire qu'il vaudra mieux avoir été prêt avant. Et tout le but de ces exhortations, c'est de vous préparer. Il y a un mois, j'étais dans une église à Perpignan, j'ai prêché sur l'enlèvement de l'église. Et le pasteur, juste après, est monté, a dit, mais je vous demande pardon, parce que ça fait des années que je n'ai pas prêché sur l'enlèvement de l'église. Mes frères et sœurs, plus ça approche, et plus on devrait entendre des prédications sur l'enlèvement de l'église. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, ce que le monde aujourd'hui pense quand il voit l'église ? Je parle avec un grand teu l'église, le grand corps de Christ, parce que cette fameuse parabole que Jésus adresse de cette fameuse femme qui représente l'église, la femme toujours représente l'église dans ces paraboles. La mesure de levain, une petite mesure de levain dans la farine, c'est l'image du péché qu'on introduit dans l'église et qui petit à petit fermente, augmente, jusqu'à ce que la pâte soit entièrement levée. Et lorsque l'apôtre Paul est venu, déjà, on a commencé à mettre du levain dans l'église, du péché dans l'église. Et ça augmente. Et croyez-moi, tout ce qui est dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, eh bien, croyez-moi, n'est pas spirituel. Mais nous devrions savoir. Mais déjà, soyons pas superficiels. C'est de l'indifférence, ça. Quand je répète, mais je le dis, et je le dis sérieusement. Ne vous imaginez pas que ça vienne de moi. Si ça vient de moi, c'est bien. Ça prouve que j'ai souci de votre âme. Mais si ça vient de Dieu, ça devrait vous faire réfléchir. Vous devriez amener votre Bible, un papier, un crayon. Il faut ces textes, il faut les relire. Je veux les relire, je veux m'en imprégner, je veux vérifier. J'ai pris ce texte des Béréens. Pourquoi ? Ben parce que ils avaient des sentiments plus nobles. Vous ne voulez pas que Dieu, quand il vous voit, ce chrétien, il a des sentiments plus nobles que bien des autres. Pourquoi ? Parce qu'il vérifie si ce que le pasteur y prêche, c'est conforme aux Écritures. Plein de gens, moi je le vois sur les sites, je suis curieux de nature, et je vais voir des fois, j'écoute des prédications, mais mes frères et sœurs, c'est de la folie. Tout ce qu'on entend, les gens sont friands, c'est écrit, ils abandonneront la foi, ils se donneront une foule de docteurs, et ils voudront entendre des fables. Des fables, c'est des histoires. Et les gens, ils vont plus... Regardez dans 2 Jean, mais je vous le dis, mes frères et sœurs, ce verset, par exemple, que je vais vous lire, vous auriez déjà dû, si vous avez plusieurs années de conversion, le mémoriser, le caler dans votre cœur, afin que vous préserviez votre âme. 2 Jean, verset 9. Regardez bien, ce que je vous dis, c'est pas du légalisme, c'est sérieux. Regardez bien, 2e épître de Jean, verset 9. Ça, c'est un verset, vous pouvez le noter, et vous verrez que dans quelques semaines, vous le connaîtrez par cœur, et quand vous lirez quelque chose et vous verrez que ce n'est pas dans la Bible, eh bien, vous ne vous ferez pas avoir. Parce que les gens, aujourd'hui, ils acceptent tout. Ils acceptent tout. C'est quand même, je veux dire, est-ce que ça, c'est bon pour les pasteurs qui ont 10 ans de conversion, ou pour les chrétiens qui ont 6 mois de conversion ? D'après vous, c'est pour qui ? 2 Jean, verset 9. « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. » Vous avez comme ça dans votre Bible ? Mes frères et sœurs, on n'a pas à aller plus loin. C'est pour ça qu'avant de lire plein de bouquins, à part, c'est vrai, parce que là, on fait attention aux livres qu'on vous met pour expliquer la parole de Dieu, mais de grâce, ne lisez pas des bouquins qui... C'est sûr, c'est dans une librairie chrétienne. On parle de Jésus tout le temps. Pour peu qu'il y ait Alléluia de temps en temps, Alléluia, ça plaît aux gens. Pour peu qu'on mette de temps en temps le Saint-Esprit un peu partout, ça doit être biblique. Non, mes frères et sœurs, il faut que vous vérifiez si on ne va pas plus loin dans la doctrine. Pourquoi on veut ajouter à la doctrine? Il n'y en a pas assez avec le Saint-Livre? Il n'y en a pas assez. Mais faites un séminaire. Faites un séminaire à Toulouse. Voilà, nous allons recevoir le frère un tel ou la sœur un tel qui a été ravi au paradis. Et voilà, il a écrit un bouquin de 350 pages sur ce qu'il a vu au paradis et qu'il y avait des roses et que ça sentait bon dans le ciel et qu'il y avait ceci et qu'il y avait cela et qu'en revenant, il a fait un détour par l'enfer et qu'en enfer, il y avait des vers partout, etc. Mais vous avez l'auditoire, il est plein. Et les gens, ils vont acheter le bouquin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais moi, je vous dis que tout ça, moi, je ne le reçois pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Je me doute qu'au ciel, il doit y avoir des roses et que ça doit sentir bon. Je me doute que ça doit être assez bien. Mais mes frères et sœurs, pourquoi éprouvons-nous le besoin de choses nouvelles? La démangeaison. Pourquoi ne nous contentons-nous pas de la parole? Pourquoi avons-nous ce besoin alors que c'est écrit dans la Bible? Eh oui, l'indifférence. On devrait vérifier, examiner. Tiens, le pasteur, même moi le premier. Même moi, vous me dites oui, monsieur Goutatati, tatata. Mais vous devriez vérifier. Je vous avais raconté ce pasteur. Il a été blessé. Il est allé prêcher dans une église en Belgique. Et il a dit, on va lire dans l'épître de Paul où il a pris une ville, une épître qui n'existe pas. C'est comme si je vous disais, on va lire dans l'épître de Paul à Thyatire. Et tout le monde cherchait l'épître de Paul à Thyatire. Franchement. Et puis c'était des chrétiens qui avaient 20 ans de conversion. Il l'a fait exprès le pasteur. Moi, je sais un peu... Bon, c'est bien. Dans l'église apostate, Jésus, il est dehors. Il est dehors parce qu'il manque de profondeur. Il est dehors parce qu'en vérité, les gens ne savent pas où ils en sont. Vous connaissez l'Apocalypse 3. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es tiède. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu. Et nous devrions tout savoir où nous en sommes. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais dans une église, quand on commence à avoir des idées libérales, quand on commence à cautionner le péché, quand on commence à accepter les abominations, quand on sait que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient, croyez-moi mes frères et sœurs, moi je trouve qu'il est temps de dire « mais où j'en suis ?» Mais où j'en suis? Moi. Toi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux dire, mais oui, je suis sérieux avec la parole. Tous les gens, bon, ils veulent de bons messages, ils veulent être, oh, ce matin, on a eu un bon message. Il faut, Seigneur, qu'on ait un bon message ce matin. Qu'il soit gentil, notre pasteur. C'est ça que vous voulez? Un pasteur gentil? Il ne faut pas un pasteur gentil. Il faut un pasteur spirituel. Bien sûr, quand on est chrétien, on est gentil. Oui ou non? Ils sont gentils, les chrétiens? Ils doivent l'être, c'est clair. Mais ça, c'est un sentiment, c'est pas important. Si le pasteur, il n'est pas gentil, c'est pas trop grave. Non? Quelqu'un qui est spirituel, quand il est bon. Ah bon. On va changer. Mais quand on en arrive à vouloir les techniques du monde... Moi, j'ai entendu un pasteur, d'ailleurs, un vieux pasteur. Eh bien, c'est comme ça, maintenant, il faut faire des concerts, et il faut des fumigènes, s'appeler aux jeunes. Eh bien, faisons plaisir aux jeunes. Mes frères et sœurs, vous voyez, quand on cède, ça fait pitié, quand même. En plus, ce n'était pas un gars de 30 ans ou 35, c'était un gars qui avait 65 ans. Moi, ça m'a fait de la peine, en plus, j'ai rien dit, j'aurais peut-être dû parler. L'église de Laodicée, c'est l'église apostate. À cause de son apostasie, le Seigneur, il est dehors. Elle croit que tout va bien. Elle ne sait pas où elle en est. Et je te pose la question, devant Dieu, est-ce que tu sais où tu en es? Est-ce que tu sais où tu en es spirituellement? C'est une église, elle est fragile, elle n'arrive pas à se décider, elle est tiède. Quand Jésus, il vaudrait mieux que tu sois bouillant ou froid. Pourquoi Jésus dit, il vaudrait mieux que tu sois bouillant ou froid? Parce que quand on est tiède, ça représente les gens qui sont bien dans l'église, ils sont bien dans le monde, ils aiment Dieu, mais en même temps ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils n'arrivent pas à se décider. Ils n'arrivent pas. C'est ça le problème. Ils sont là, ils veulent impressionner le monde parce que par leur adaptation, ils veulent montrer que ce sont des chrétiens branchés, des chrétiens fun, voyez. Alors nous on est comme, voyez, ah ouais, t'as vu les chrétiens? Je me rappelle ce concert qui avait été fait, enfin j'avais pas été. Et puis non, c'est une jeune fille qui était ici. Elle était ici, elle me dit, Monsieur Gau, il y a la fête de la musique, il y a un groupe de rock chrétien. Qui va chanter dans les rues de Toulouse, vous allez y aller? Je dis non, je ne pense pas. Mais allez-y. Je voyais qu'elle mourait d'envie d'y aller. Mais allez-y. Allez-y, j'ai dit. Elle y a été. Je dis, écoutez. Et puis elle s'est mise en retrait, et il y avait ce groupe de rock chrétiens. Et puis il y a deux rockers qui passent, deux vrais rockers. Et ils regardent les chrétiens, ils se mettent à rire. Il y en a un qui dit à l'autre, t'as vu les chrétiens? Ils essaient de faire comme nous. Et ils sont partis en riant. Et Dieu a permis, vous voyez, que cette jeune fille de l'église entende ça à quelques mètres. Vous voyez, on essaie de faire comme le monde pour plaire au monde. Si encore ces rockers, ils étaient toujours chrétiens, vous voyez. Le problème est qu'ils ne sont plus chrétiens. Mes frères et sœurs, une église où on a réussi à mettre Jésus dehors. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. Et l'apostasie, elle commence avec cette légèreté, elle commence avec cette indifférence, elle se poursuit avec l'ignorance. Regardez par exemple dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, il y a l'indifférence, la légèreté, de ne pas vérifier. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, regardez bien, je suis persuadé que plusieurs parmi nous, nous sommes peinés de la pauvreté des dons spirituels. Il n'y en a pas qui aimeraient davantage de dons spirituels, que davantage prophétisent. Dans une église de 100 personnes, combien pourraient prophétiser? Quel est le pourcentage de personnes qui pourraient prophétiser? Est-ce que c'est écrit, je veux que tous prophétisent? Lisez 1 Corinthiens chapitre 14 et vous le vérifierez. Vous voyez, regardez 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1er. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Voyez, pourquoi je vous presse? Vous pourriez presque considérer ma façon comme quelque chose, comme de l'ingérence. Mais pourquoi je vous presse? Parce que celui qui ne garde pas la parole, il est en danger. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, éprouver tous les habitants de la terre. C'est écrit, Apocalypse 3, 10. Cette heure, elle va venir sur le monde entier. Mais on le sait, on le perçoit. Même les païens le savent. Hier, je voulais regarder les infos pour prendre 5 minutes, et il y avait une femme qui faisait un poème sur ce qui se passe avec les émigrés. C'était fort comme... Peut-être que vous l'avez vu, je ne sais pas sur quelle chaîne c'était. Et elle parlait de la colère des émigrés qui sont malmenés. Et elle termine par un poème qu'elle a composé. C'était bien. Elle parlait colère, les hommes sont en colère. Alors elle, en même temps, la caméra se fixait vers des peupliers qui bougeaient à tout vent. C'était bien fait, c'était poétique, mais c'était bien. Les arbres sont en colère, les oiseaux sont en colère. Elle parlait, la colère vient. Je ne sais pas si elle était chrétienne. Mais on le sait, mes frères et sœurs. Et si nous voulons être debout quand Jésus reviendra, il ne suffit pas d'être dans une église. Il y a des gens, ils s'imaginent qu'ils sont fidèles parce qu'ils sont tous les dimanches à l'église. Bien sûr, ça fait partie de notre besoin d'être dans une église. Mais mes frères et sœurs, il y a plein de gens qui sont dans les églises, ils ont un témoignage lamentable. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Mes frères et sœurs, un chrétien, il doit savoir. Moi, je vous assure, je suis choqué. Des fois, on me dit, monsieur Roux, vous avez été sur Internet, regardez telle prédication, c'est super, allez-y, ça va vous faire du bien. Des chrétiens? Oui, mais c'est tellement bien ficelé, mais je peux vous dire que ça part avec un verset biblique, et après, c'est la pensée de l'homme qui s'exprime, qui n'a rien à voir avec la pensée biblique. Et si la personne, elle avait lu la parole, laissez-moi vous dire qu'elle aurait su. Vous voyez, Madame Loupiac a répondu, oui, tous doivent prophétiser. Parce que c'est écrit, et vous le vérifierez dans 1 Corinthiens 14. Je veux, tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut recevoir une pensée de Dieu. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a un manque de soif, il y a peut-être de la crainte, de la timidité. Oui ou non? Est-ce qu'il peut y avoir de la timidité? Oui, mais ça, est-ce que Dieu ne nous donne pas la grâce de surmonter ces choses? Moi, vous savez, la première fois où le pasteur m'a dit, je me rappelle, on était avec les anciens Albi, et j'avais exprimé mon besoin de rentrer dans le ministère. Enfin, ça s'est passé, etc. Et le pasteur, il m'a dit, bon, mais mardi, c'est Gérard qui va prêcher. Je dis, non, je ne prêcherai pas. Non. Et j'ai vu dans le regard des frères, tous, on dit, ce frère, il a reçu un appel, et je ne pouvais pas prêcher. Je ne pouvais pas, j'étais paralysé. Et je me suis dit, mais il te faudra quand même commencer. Mais c'est pareil pour tout. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a donné un esprit de force pour qu'on fasse ce que Dieu nous demande? Eh bien oui. Donc nous devons veiller, ça c'est biblique. Tiens, aujourd'hui on remet en question la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. La naissance, comment on appelle ça, l'incarnation dans beaucoup d'églises. Jésus est-il véritablement Dieu? C'est rentré dans nos églises. Est-ce que vous le savez que c'est rentré dans les assemblées de Dieu? Jésus est-il véritablement Dieu? Écoutez, moi je vous dis que Jésus est Dieu. Il est venu sur la terre dans la personne de Jésus-Christ et il vaut mieux être d'accord avec ça. Et tout ça, ça fait que les gens, ils ne savent pas, est-ce que vraiment Jésus est Dieu? Mais les témoins de Jéhovah, ils disent ceci, ils disent cela, les mormons, ils disent autre chose, je ne sais pas quoi penser, j'en sais rien. Écoutez-moi mes frères et sœurs, quand vous avez lu la Bible, avec votre cœur, vous savez que Jésus est Dieu. Vous le savez. Et que ce Seigneur, il est mort sur la croix pour qu'on n'aille pas en enfer. À condition que nous nous repentions. Seigneur, mais illumine les yeux de mon cœur. Vous avez vu dans l'église de Laodicée, quel est le conseil, un des conseils sur les sept que Jésus donne à cette église? Je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux. C'est un conseil. C'est une église qui va mal. Elle va très mal. C'est une église qui a réussi à mettre Jésus dehors. Vous vous rendez compte? Et pourtant, Jésus dit pas, mais je vais te secouer. Je vais t'ébranler. Tu vas avoir une terrible épreuve. Non? Je te conseille, Dieu ne nous oblige jamais. Là où on vous oblige, je peux vous dire que vous êtes dans une secte. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un. Jamais. Même les anges qui ont voulu se désolidariser de Dieu, eh bien, ils se sont désolidarisés. Et ils ont suivi Jésus. Lucifer. C'est vrai ou c'est pas écrit? Mais vrai, Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Et dans la fermeté d'une prédication, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Ça, c'est votre choix. Mais je peux vous dire que Dieu ne vous forcera jamais. Il nous conseille. Et nous devons dire, mais Seigneur, mais ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Qu'est-ce que sont ces nouvelles doctrines? La théologie du royaume maintenant. Tout le monde doit être prospère. Je l'ai dit tout à l'heure. L'apôtre Paul, est-ce qu'il n'a pas été infirme toute sa vie? Est-ce que Paul a gardé son infirmité toute sa vie? Oui. Ah, et bien lui, il n'aurait pas pu. Il n'était pas spirituel, l'apôtre Paul, puisqu'il était malade. Il était malade. Et il le dit, c'est à cause d'une infirmité que je suis venu chez vous, aux Galates. Nous, mais voyez, cette doctrine, en plus, il faut donner. Mais c'est que si on donne, on donne de tout cœur, non? Tout à l'heure, vous allez peut-être donner votre offrande, mais vous le faites de tout votre cœur. Et on est là, on culpabilise les gens. Ça fait que celui qui n'est pas guéri, eh bien, il n'est pas spirituel. Et il abandonne Dieu. Alors, on met la pression sur les gens. Non, je crois que c'est nous qui devons nous efforcer nous-mêmes. S'il y a quelqu'un qui doit se mettre la pression, c'est soi-même. D'ailleurs, Jésus le dit dans la dernière prophétie, là, quand il dit, mais quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il pourrait dire, écoutez, c'est grave, mais c'est grave. En plus, il pouvait le faire. Lui, il pouvait. Je vais vous forcer. Non, il dit, efforcez-vous d'entrer. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps difficiles, très difficiles. La vie est difficile sans Dieu. Imaginez-vous, sans la paix, sans le pardon, comment on serait? Sérieusement, sans la paix, sans le pardon et sans cette grâce de pouvoir nous décharger de tous nos fardeaux, imaginez-vous dans quel état on serait. Le monde est malheureux, le monde ne se rend pas compte. Vous savez, ce que je vais vous dire, c'est sérieux. Même si c'est une pensée, ce n'est pas écrit dans la Bible. Parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est biblique, bien sûr. On nous saupoudre toute la journée. Enfin, moi, je ne regarde pas les informations, je regarde de temps en temps. Mais les 3 ou 4 fois où j'ai écouté cette semaine, il ne faisait que parler de ceux qui ont ouvert des comptes au Panama, je crois que c'est, ou au Bahamas, je ne sais plus. Panama. Les 7 ou 8 fois ou 10 fois où j'ai ouvert France Info, on ne parlait que de ça. Je me dis, mon Dieu, il se moque. Le diable, il nous promène, le diable. Parce que je peux vous dire ça franchement, je pense qu'on n'apprend rien de nouveau. Que des gens envoient de l'argent, planquer de l'argent dans des paradis fiscaux, je pense que ce n'est pas un scoop. Et pourtant, toute la semaine, ils ont parlé de ça. Alors que si vous allez sur des sites d'information juive, vous allez voir qu'au sud du Liban, ça, personne n'en a parlé, au sud du Liban, l'armée russe a détruit, rasé des villages à la façon de Vladimir Poutine. Ils ont rasé des villages et ils ont installé à la place des bases de missiles S-400. Regardez sur Internet ce que c'est les missiles S-400 et vous allez voir pourquoi ils veulent s'en servir. Pourquoi les Russes sont en train d'armer l'Iran? Pourquoi les Russes sont en train d'armer certains pays qui sont décrits dans Ézéchiel 38, Ézéchiel 39? Ce sont des choses évidentes. Ça, c'est l'actualité, mais personne n'en parlera. Et en coulisses, je peux vous dire qu'est en train de se préparer une guerre. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Vous n'avez rien à craindre si vous êtes chrétien. Mais mes frères et sœurs, cette guerre, elle aura lieu quand l'Église sera enlevée. Vous le croyez, vous ne le croyez pas, mais laissez-moi vous dire que quand vous lisez Ézéchiel 38, vous voyez que la colère est montée au visage du Seigneur. C'est écrit ce que je vous dis. Alors ça peut prendre, bien sûr, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Mais mes frères et sœurs, on devrait quand même être soucieux. Vous voyez qu'on nous promet. Vous savez, c'est pas le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, qui dirige la télévision en France. Hein. Vous savez qui c'est qui dirige la télévision? Alors moi, je regarde des choses, parce qu'il y a des choses saines, et je pense qu'il ne faut pas non plus tomber là-dedans. Mais mes frères et sœurs, on nous promène, et la majorité des gens, ce sont de véritables marionnettes. Alors nous devons nous dire, mais Seigneur, je veux absolument ne pas vivre dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on doit lire la parole de Dieu. Moi, je vous dis, cette semaine, ça arrive souvent, des gens qui ont 20 ans de conversion. Monsieur Gou, est-ce que... Bon, écoutez, moi, je leur réponds, et je suis content que les gens aient soif. Et en même temps, ça, je vois bien qu'il y a un renouveau dans l'esprit des gens. Mais on devrait le savoir. On devrait le savoir. Vous vous rendez compte qu'il y a le mouvement de la prédestination. C'est en train de passer dans les églises. La prédestination, ça part de Éphésiens chapitre 1er, où il est dit que nous sommes prédestinés à la vie éternelle. D'accord? Mais comme les gens ne connaissent pas la Bible, ils introduisent ce texte pour dire que si vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes prédestinés à la vie éternelle. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez la vie éternelle. Vous avez vu comment c'est bien tourné, bien sûr, comment je vous le résume. Mais c'est plus enrobé que ça. Voilà, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre le salut. Mais quelqu'un qui a... Je n'exagère pas. Quelqu'un qui a une semaine de conversion, vous entendez? Une semaine de conversion. Il a lu le sermon sur la montagne, oui ou non? Quelqu'un qui se convertit aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui. Est-ce que dimanche prochain, il aura lu au moins 7 chapitres de Matthieu? Alors, d'après vous, 7 chapitres, un par jour. Quelqu'un qui est amoureux. Est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux ici?
Les jeunes, levez la main.
Quelqu'un qui est amoureux, qui reçoit tous les jours une lettre de sa bien-aimée. Est-ce qu'il attend ? Non, là, je ne lis pas cette semaine. Non, je lirai le mois prochain. Il va la lire comment ? Dans 3 mois ? Mais il va la lire de suite. Quand vous vous convertissez, vous avez envie de savoir ce que Dieu pense. Et au bout de 7 jours, ça serait grave si vous n'avez pas lu les 7 premiers chapitres de Matthieu. Et le dernier chapitre de Matthieu termine par cette fameuse parole de Jésus où il dit « Mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Et je leur répondrai ouvertement, c'est Jésus qui parle, c'est pas le pasteur légaliste de telle dénomination. Jésus leur répondra, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez. Donc, dès le départ, un chrétien qui donne son cœur à Jésus voit de suite qu'on peut perdre le salut. Et ça, c'est en train de rentrer, bien sûr que ça plaît. Vous vous rendez compte, on ne peut pas perdre le salut. Mais le gars, écoutez-moi franchement, moi je vais jusqu'à dire que celui qui prêche ça, il n'est pas converti. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a des centaines de textes qui indiquent qu'on peut perdre le salut. Donc, on poursuivra ce sujet. Pour moi, il est important parce que ça va très loin. Vous allez voir dimanche prochain comment ça fonctionne, comment. Vous voyez ce qui est écrit dans les Thessaloniciens. Regardez. Dans les Thessaloniciens, il est parlé de ces faux bergers qui iront même jusqu'à faire des prodiges et des miracles, parce que si Dieu est tout puissant, il n'empêche que le diable est puissant. Attention, il n'est pas tout puissant. Et quand même, c'est mal placé que de mettre Dieu sur le même pied d'égalité que le diable. Ça, c'est grave, parce que c'est vraiment... Que vous mettiez le diable sur le même pied d'égalité que l'ange Gabriel, moi, je veux bien. Parce qu'il y a des anges dans la Bible, laissez-moi vous dire, qui sont costauds. Mais mettre sur le même pied d'égalité Satan et Dieu, je trouve que c'est vraiment mal placé. Dieu est tout puissant. Est-ce que vous le croyez? Il sait tout. Et le livre de Job, par exemple, nous enseigne bien que Dieu ne se trompe jamais. Dans le livre de Job, tout le monde s'est trompé. Sa femme s'est trompée, mais il n'y a pas à l'accabler, la pauvre, avec ce qu'elle a vécu. Les amis de Job, tous, les 4 amis, il y en a 3, mais il y en a un 4e aussi, ils se sont trompés. Le diable s'est trompé, puisqu'il avait dit, si tu lui fais traverser ça et ça, tu verras qu'il te maudira. Donc le diable se trompe. Il ne connaît pas nos pensées. Il faut que vous arrêtiez avec ces fausses culpabilités. Le diable, il sait tout ce qui se passe. Non, parce que si le diable avait su ce qui se passait dans la tête de Job, il ne se serait pas trompé. Il n'y a que Dieu qui savait ce qui se passait dans le cœur de Job. Et vous voyez, et ça, les gens, je ne sais pas où ils l'ont lu, mais s'ils avaient lu la Bible, ils auraient vite compris que Dieu est tout puissant. Et que le diable, il est puissant. Et il va faire des choses, et il va séduire les gens. Voyez ? Il va séduire les gens. Au verset 3, que personne ne vous séduise, d'aucune manière. Et à la fin, il y a l'apparition de cet impie qui se fera par la puissance de Satan. Verset 9, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Vous avez vu ? Mais regardez au verset 11 et au verset 12. Ça, il me faudra toute une prédication pour vous l'expliquer. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge ?» Est-ce que vous vous rendez compte? Alors, est-ce que Dieu ment? Bien sûr que non. Mais lorsqu'on n'obéit pas à la vérité, lorsqu'on adopte des mensonges, c'est qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Et lorsqu'on adopte des mensonges, on finit par obéir au menteur. Et si vous vivez dans le mensonge, je peux vous dire que votre Père, ce n'est pas Dieu. Mais mes frères et sœurs, on va voir ces choses. Je vous assure, lisez ces chapitres et vous verrez même, il faudra prendre des textes de l'Ancien Testament pour comprendre qu'avec quelques erreurs, quelques petites erreurs, si on n'a pas la crainte de Dieu, on finit par adopter des mensonges. Et c'est grave. C'est grave, mes frères, parce que les gens qui ne seront pas prêts, ce sont des gens qui vont finir par admirer la bête, parce qu'ils seront plus impressionnés par les expériences. En vérité, le problème vient de là. Les gens, ils seront assoiffés d'expériences, plutôt que par la parole de Dieu. C'est comme ça que les gens ils se font piéger. Alors je termine avec ce texte. Vous savez, dans l'Apocalypse, moi, il y a un texte qui me fait mal au cœur, mais qui indique bien, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Après l'enlèvement, il y aura un système politique mondial qui va se mettre en place. Regardez, Apocalypse chapitre 13, le verset 3. C'est un verset, moi, qui me fait mal au cœur. Mal au cœur, ce verset. On voit comment les gens vont... Parce que les gens, ils sont en train de choisir, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui s'est passé en France ces derniers temps fait que les gens choisissent. Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. » Regardez bien le mot qui suit. « Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. » J'ai souligné « rempli d'admiration ». Vous savez qui c'est qu'on aurait dû admirer? Comment il s'appelle le Seigneur Jésus par le prophète Ésaïe? On l'appellera Dieu puissant, conseiller, Père éternel, prince de la paix, et le cinquième c'est admirable. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous vous rendez compte que ce n'est pas Jésus qu'on admire, c'est le diable. Pourquoi? Eh bien parce que les gens ils auront préféré les expériences à la parole de Dieu. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que quand on voit ce qui va arriver après, quand ce système mondial va imposer un autre système monétaire, aujourd'hui on peut payer avec des billets ou des cartes bleues, etc. Voilà, c'est écrit. Ça sera comme du temps de Noé, les gens mangeaient, achetaient, buvaient, etc. Donc, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas la marque de la bête. C'est après l'enlèvement de l'Église que le dictateur imposera la marque de la bête. Et ce qui se passera, c'est que ceux qui accepteront la marque de la bête, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. C'est écrit Apocalypse 14. Vous le lirez. Vous lirez ces chapitres. Et vous verrez ce qui va bientôt arriver. Une fois que l'Église sera enlevée, il n'y aura plus la paix sur la terre. Ça sera terminé. Parce qu'aujourd'hui, même si les temps sont difficiles, il y a la paix. Alléluia. Vous pouvez partir, les anges vous protègent. Vous le croyez que les anges vous gardent? Vous ne le voyez pas? Peut-être que c'est virtuel pour certains, c'est sûr que vous dites, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Si vous venez pour la première fois, peut-être ça vous choque. Quand vous lirez la Bible, ça ne vous choquera pas du tout. Vous serez heureux de que les anges vous protègent, que les anges vous gardent, que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous connaîtrez les promesses, vous serez émerveillés, vous aurez envie de pleurer de reconnaissance, parce que Dieu gardera les chrétiens jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Ce soir, vous pouvez vous coucher et vous endormir en paix et dire, Seigneur, protège ma maison, que ton sang, que tes anges me protègent. On peut faire cette expérience? Est-ce que c'est mystique ou est-ce que c'est biblique de faire cette prière? Mais bien sûr que c'est biblique. Parce que quand on sera, quand les gens, moi franchement je n'y serai pas, je ne veux pas y être. Mais quand l'Église sera enlevée, mes frères et sœurs, personne ne peut savoir le désarroi qu'il va y avoir. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y aura plus de paix. Et là, les chrétiens charnels qui seront restés comprendront ces choses. Là, ils ne peuvent pas les comprendre, parce qu'ils ne veulent pas. Mais lorsque l'Église sera enlevée, c'est les chrétiens qui vont rester, s'ils ont l'occasion de réécouter ce genre de message, ils comprendront qu'ils auraient mieux fait vraiment de se repentir. Et de dire, Seigneur, moi je veux savoir où j'en suis. Je veux savoir où j'en suis. Si vous demandez à Dieu de vous éclairer, il vous montrera. Moi, vous savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il m'a fallu un AVC pour que je comprenne que ce à quoi Dieu m'appelait. Plutôt que de courir toute la journée chercher des grands-mères et boire le café. C'est bien, moi ça me plaît d'aller boire le café chez les mémés. Mais je peux vous dire que c'est autre chose que de chercher la pensée de Dieu. C'est plus facile. Qu'est-ce que vous préférez que je fasse? Que j'aille boire le café chez les mémés? Ou que je cherche la pensée de Dieu? Qu'est-ce que vous préférez? Les deux. Mais je crois que les hommes de Dieu, ils sont appelés à s'adonner à la prière et au ministère de la parole. Oui ou non? C'est écrit ou c'est pas écrit? Je pense qu'il faut prier pour que les pasteurs... pour que vraiment dans toutes les églises, la pensée de Dieu soit communiquée. On va terminer avec un verset. On terminera cette histoire, cette affaire. Ce n'est pas fini, vous allez voir combien on peut basculer de l'épreuve à la condamnation. Ça sera la prochaine fois. Mais là, on va quand même voir la solution. Elle est où la solution? La solution, eh bien, c'est dans Luc 21. Luc 21, verset que vous pouvez apprendre par cœur, croyez-moi. Un merveilleux verset. Luc 21, c'est un texte qui nous parle de la fin des temps, quand Jésus reviendra. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Alors, vous y êtes? Luc 21, verset. On va lire le verset 35 et 36. Vous voyez, ce jour, comment il viendra ce jour? Regardez bien. On va lire le verset 34 pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la Bible. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même. C'est ce qu'on est en train de faire. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger ou du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc il y a des choses, vous voyez, il faut y faire attention. Merci Seigneur pour la nourriture. Vous avez de la nourriture pour midi? Ben, remerciez le Seigneur. Ne vous laissez pas piéger par ces choses. Il y a des gens qui mangent trop et finissent par se laisser apesantir, etc. Les soucis de la vie, des soucis, il y en a, on a tous des soucis, on en a tous. Il faut se décharger de tous les soucis. Car il viendra comme un filet sur tous ceux, alors regardez bien, sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Ça va pas être localisé à un endroit. L'apostasie, il ne parle pas d'une église apostate, d'un mouvement apostate. Il parle de l'apostasie, ça veut dire que c'est toutes les églises, à part ceux qui veulent être des vainqueurs. Veillez donc, alors regardez la solution. Veillez donc et priez 24 heures sur 24. C'est ça que ça veut dire prier en tout temps? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non. Ça veut dire en tout temps, est-ce qu'on peut prier 24 heures sur 24? Oui, on peut être dans un esprit de communion avec Dieu. Ah, attention, ça y est, je savais que ça arrive. Bon, on peut être constamment en pensée dans la communion avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. Donc ça fait que vous attachiez les tomates, que vous soyez sous la douche, sous la couette, que vous soyez en voiture. Quoi que ce soit que vous fassiez, vous pouvez le vivre dans un esprit de reconnaissance. Mais est-ce qu'on peut être à genoux 24 heures sur 24? Non. Prier en tout temps, ça veut dire, eh bien, quand j'ai des épreuves, je dois prier. Quand tout va bien, je dois prier. Quand je suis malade, je dois prier. Peut-être moins, parce que j'ai moins de force. Mais quand je suis en bonne santé, je dois prier. Quand je suis béni, je... Vous voyez, en tout temps, ça veut dire dans toutes les situations. D'accord? Afin que vous ayez... Quoi? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors mes frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais comme ça fait déjà plus d'une heure que je prêche, je me dois d'arrêter. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez être debout quand Jésus va revenir? Vous voulez être debout? Vous voulez paraître debout quand Jésus va revenir? Il peut revenir quand le Seigneur? Est-ce qu'il y a l'apostasie aujourd'hui? Ouais. Ah ouais, il y a l'apostasie. Ouais. Alors mes frères et sœurs, soyons sérieux, veillons. C'est ce qu'on a fait ce matin. C'est ce qu'on a fait. On a veillé, mais il ne faut pas le faire le dimanche matin. Ce soir, vous pourrez, tiens, je vais relire ces textes. Tous les versets que le pasteur nous a cités, je les ai notés, je vais les relire. Le dimanche prochain, je vous donnerai une dizaine de versets que vous-même vous lirez sur la séduction, sur les faux docteurs. Et je pense que c'est bien que vous-même vous les méditiez. Je ne vous les donnerai pas tous pour que vous le fassiez vous-même. Mais je vous expliquerai comment on peut passer de l'épreuve à la condamnation et que là on ne rit plus.